Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Épisode 1. La folie des grandeurs. Je me souviens le jour de mon arrivée au Qatar, vraiment la toute première fois que j'ai posé les pieds dans ce pays. C'est une collègue de l'ambassade de France donc, qui est venue me chercher à l'aéroport. Et dans la voiture, pendant qu'elle me conduisait dans mon nouveau chez moi, je me rappelle c'était le soir, il faisait nuit, tout ce que je voyais sur le trajet, c'était des chantiers de construction. À tel point que je me suis dit, putain, c'est quoi ce pays? C'est trop moche. Il y avait tellement de chantiers partout, de grues, de grilles, de plots de signalisation, de bâches en plastique. Enfin, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'on quitte la zone industrielle? Alors qu'en fait, évidemment, on était déjà dans le centre de Doha. Et cette première impression, en fait, qui est souvent la même pour tous les nouveaux arrivants, correspond en fait totalement à la réalité. C'est-à-dire que le Qatar, c'est un chantier géant. J'ai jamais vu ça dans aucun autre pays. Je sais bien que c'est un peu une évidence hein, quand tu parles du Qatar, d'évoquer ces bâtiments qui poussent comme des champignons, mais si tu veux, ça fait tellement partie intégrante du tableau que je peux pas ne pas l'évoquer. Et par ailleurs, c'est assez intéressant de voir comme cette frénésie constructive, cette volonté du moderne, de développement aussi dans l'architecture, dans la construction, est parfois en décalage avec une réalité beaucoup plus limitée, en tout cas dans les moyens, et puis une réalité aussi assez archaïque au final. Juste d'abord pour replacer les choses, donc le Qatar est un pays très jeune, tout est à faire, et comme il s'est découvert une richesse sans fond avec le gaz principalement, depuis 20 ans, ça construit à tout va. Juste pour te donner un ordre d'idée, rien que le secteur de la construction au Qatar, c'est la moitié des investissements de l'État. Et alors là, comme en plus, ils préparent la Coupe du Monde 2022, ça n'arrête pas. Entre les stades, le nouveau métro, des hôtels, bref, ça pousse partout. Je crois même que le budget de la Coupe du Monde, à lui seul, tout compris, hein, c'est-à-dire les stades, les infrastructures, les hôtels, mais aussi les services, tout ce qui est sécurité, on estime à 200 milliards d'euros. C'est stratosphérique. J'ai regardé, je crois que c'est plus que le PIB de la moitié des pays de la planète. Le truc avec le Qatar, c'est qu'ils construisent beaucoup, qu'ils ont les moyens, certes, ils ont de l'argent, mais pas la main d'œuvre. Le Qatar est un tout petit pays avec une population nationale, donc là je parle bien des Qataris, hein, qui représente un peu plus de 200 000 habitants, et donc ils sont obligés de faire venir de la main d'œuvre en masse de l'étranger, principalement d'Inde, du Bangladesh, du Népal, enfin d'Asie du Sud-Est, quoi. Et alors, on s'en rend pas trop compte parce que les ouvriers, ils sont sur les chantiers, ils vivent dans des complexes à l'extérieur de la ville, et puis ils n'ont pas tout à fait accès aux mêmes loisirs que le reste de la population, enfin en tout cas la partie plus riche de la population, dont évidemment je faisais partie. Mais en vérité, ils surpassent largement le nombre de Qataris dans leur propre pays. C'est-à-dire que tous ces ouvriers, en fait, représentent plus de la moitié de la population du Qatar, qui, elle, s'élève à peu près à 2,5 millions d'habitants. Ça me fait penser qu'un jour, avec une copine, on avait décidé de se promener sur la Corniche. C'est le nom de la promenade le long de la mer à Doha. Donc on était un vendredi après-midi. Vendredi au Qatar, c'est comme le dimanche chez nous, c'est un jour saint, donc c'est férié. Et donc les ouvriers ne travaillent pas. Et donc on s'est retrouvés, toutes les deux, deux filles, à marcher au milieu de milliers et milliers d'Indiens qui eux aussi profitaient de leur jour off. Hein. Et c'était hallucinant, c'était plus Doha, c'était Calcutta. Il n'y avait pas un seul Qatari, pas un seul occidental, c'était blindé juste de gens d'Asie du Sud-Est, et tous des hommes en plus, parce que très peu de ces ouvriers viennent s'installer avec leur famille, en général ils sont seuls. Et donc on s'est retrouvés avec ma copine toutes les deux au milieu de cette foule d'hommes qui avaient en quelque sorte pris possession des lieux, en plein milieu de Doha, hein, et qui nous regardaient vraiment nous comme des intrus. Et c'est un souvenir assez marquant parce que le Qatar c'est ça aussi, c'est... la vie aux côtés de ces milliers, voire ce million même, je crois, d'ouvriers qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont relégués au banc de la société, et qui pourtant constituent une force énorme, parce que à eux seuls, enfin, je veux dire, c'est encore une fois plus de la moitié de la population du Qatar. L'autre truc assez dingue dans la construction au Qatar, c'est la dimension des projets. C'est toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus luxueux. Je prends l'île du Pearl, par exemple, qui est l'île artificielle de Doha. Alors ça, c'était un énorme projet qui a démarré, je crois, dans le milieu des années 2000, où ils ont carrément fait sortir de terre une île entière, qui fait à peu près une surface de 400 hectares. Et donc il a fallu drainer l'eau, faire venir des tonnes de terre, de sable, et puis ensuite tout construire de zéro, les routes, les habitations. D'ailleurs ça construit encore, hein. Le projet n'est toujours pas fini, 15 ans après, il reste encore plein de tours en construction. En revanche, ce qui est très bizarre dans ce projet, c'est que malgré tous les moyens mis en œuvre, l'île est aux deux tiers vide. C'est-à-dire que tu as des quartiers entiers sur cette île artificielle complètement abandonnés. Notamment, je pense à un en particulier qui s'appelle Canat Quartier, qui est un endroit un peu spécial sur l'île parce qu'en fait, ils ont voulu reproduire une sorte de village italien, un peu sur le modèle de Venise, en fait, avec des façades très colorées, de jolis balcons et puis plein de canaux avec des petits ponts un peu partout. Donc, c'est très, très joli. Hein. Mais quand on se balade dans ce quartier, enfin, t'as l'impression que la peste est passée par là, quoi. C'est désert, tu croises personne. C'est même un peu glauque, en fait, parce que justement, pour aller au bout du délire fausse ville européenne, ils ont fait des fausses vitrines avec des posters de boulangerie, par exemple, ou d'épicerie à l'européenne, collés sur les vitres. Mais il n'y a rien derrière, enfin, t'as l'impression que c'est un décor de cinéma. Et comme c'est vide, tu te crois un peu comme dans un parc d'attractions, mais hanté. Et quand tu penses au fric qu'ils ont pu mettre pour construire ce truc, où personne au final n'a les moyens d'habiter parce que ça coûte beaucoup trop cher, et puis c'est pas très bien desservi, enfin bref, tu te dis il y a quand même un petit problème quelque part. Ils ont beau avoir tout l'argent du monde, il y a aussi des gros ratés, et qui sont malheureusement pas que des exceptions. Ça arrive très souvent au Qatar, par manque de temps, de professionnalisme, de se retrouver face à ce genre de situation absurde. Autre exemple, assez représentatif de ce que je veux dire, c'était quelque temps après l'ouverture du nouvel aéroport de Doha, le Hamad International Airport. Donc il était encore tout neuf, hein. C'était moins d'un an après l'inauguration, qui s'est déroulée d'ailleurs juste avant mon arrivée, parce que moi j'étais parmi les tout premiers passagers qui atterrissaient sur le nouveau site. Donc aéroport superbe, immense, flambant neuf, qui d'ailleurs ne tarde pas à recevoir des récompenses, tellement il est beau, tellement il brasse beaucoup de passagers. Et effectivement, il est nommé par, je ne sais plus quel organisme, meilleur aéroport du monde, dans sa catégorie, c'est-à-dire entre temps et temps millions de passagers, je ne sais plus. Et à peine une semaine plus tard, il se passe un truc qui n'arrive pas très souvent au Qatar, certes, il pleut. Et la catastrophe, ça coule de partout. L'aéroport est complètement inondé. Il y avait plein de vidéos d'ailleurs qui circulaient sur les réseaux sociaux où on voyait littéralement de la pluie ruisseler au milieu du hall principal. Et là tu te dis c'est quand même génial, le truc est tout neuf, vient de recevoir l'Oscar du meilleur aéroport et dès qu'il pleut c'est une piscine. Et le pire c'est qu'il s'est passé exactement la même chose à l'hôtel Sheraton un peu plus tard. Dit comme ça, ça te dit rien, l'hôtel Sheraton, mais faut savoir que c'est vraiment l'hôtel emblématique de Doha. Quand tu regardes des photos de la ville il y a 20 ans, il n'y a pratiquement rien que du désert, sauf cet énorme hôtel sur la corniche, qui en plus est très reconnaissable parce qu'il a une forme assez particulière de pyramide tronquée sur le haut, et puis peint tout en blanc. Et donc cet hôtel a fermé, je crois, presque 2 ans pour être rénové. Et pendant que j'étais au Qatar, il a réouvert. Alors, réouverture en grande pompe, cérémonie officielle, jeu de lumière, invités extrêmement prestigieux, bref. Et pareil, peu après, il a plu Et là, c'était terrible parce que cet hôtel qui fait la fierté du Qatar s'est retrouvé complètement sous les eaux. Il y avait des infiltrations partout, dans le hall, dans les chambres. C'était véritablement la cata. Donc voilà, même si le rythme des constructions, leur nombre, leur taille, tout ça est clairement impressionnant hein, et sans commune mesure ailleurs dans le monde, tu sens quand même qu'à force de vouloir faire trop grand, trop beau, trop tout, ils ont tendance à perdre de vue l'essentiel. Et à mon sens, tout ça met en lumière une grosse lacune, je crois qu'il y a dans le fonctionnement des choses au Qatar, c'est justement cette vision sur le long terme. C'est un peu le problème des nouveaux riches d'ailleurs, ils veulent tout faire trop vite, être dans l'apparence, dans le résultat immédiat, et du coup ça donne des trucs qui tiennent pas la route, et qui à mon avis menacent de s'écrouler dans les 50 prochaines années.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.